Il est tout juste 7h, bon réveil, voici le journal avec Claire Sergent.
Bonjour Stéphane, et à la une ce matin le sort d'EDF, une cotation suspendue dans l'attente de sa renationalisation. On connaîtra avant l'ouverture des marchés les conditions de la montée de l'État à 100% du capital de l'entreprise. C'est aujourd'hui la date limite fixée par Bercy pour dévoiler les modalités de l'opération. Bonjour Nathan Cocampo. Alors aujourd'hui l'État détient 84% d'EDF, le reste appartient encore à des actionnaires minoritaires pour l'instant.
Oui, et le point central sur lequel le ministre de l'Économie et des Finances est attendu, c'est ce que l'État est disposé à payer. Quel sera le montant de la prime offerte aux actionnaires minoritaires pour sortir du capital de l'énergéticien? JP Morgan a récemment estimé que l'État pourrait proposer une offre proche de 12 euros par titre et pourrait ainsi débourser 10 milliards d'euros pour acquérir les 16% du capital d'EDF. Sur la base de ces éléments, Morgan Stanley calcule de son côté un prix par action de 12,60 €. Un comité d'experts devrait être nommé prochainement pour définir le juste prix des actions d'EDF.
Et en l'attente des détails qui vont être annoncés ce matin, Bercy avait dû suspendre le titre qui flambait après l'annonce de la renationalisation.
Une décision prise en urgence mercredi dernier après des échanges avec l'autorité des marchés financiers. Et pour couper court aux rumeurs de marché et à la flambée du titre, plus 30% depuis l'annonce du 6 juillet. Si l'État avait un temps envisagé de nationaliser EDF en passant par la loi, il semble maintenant décidé à procéder à une offre publique d'achat pour récupérer les 16% manquants. Avec la hausse continue du titre en bourse depuis l'annonce, l'État risquait d'augmenter le coût de cette opération pour les finances publiques. L'action s'est clôturée à 10,20 € mardi dernier.
Oui, Nathan, surtout qu'hier, un groupe d'actionnaires salariés et d'anciens salariés ont décidé de porter plainte contre l'État.
Ils dénoncent une mauvaise gestion et des décisions aux conséquences spoliatrices. Ils rappellent la chute vertigineuse de l'action passée de 32 € lors de l'ouverture du capital au public fin 2005 à 7,40 € au moment de la déclaration de la Première Ministre le 6 juillet. Autre critique, la vente à un prix inférieur au coût de production d'au moins un quart de sa production d'électricité nucléaire d'EDF à ses concurrents, selon le mécanisme de l'AREN pour répondre aux exigences européennes. Et enfin, dernière critique, la mise à l'arrêt des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim en Alsace.
Merci beaucoup Nathan Cocampo. Détail donc de cette renationalisation attendue ce matin à 8h30. En attendant, Claire, une cagnotte surprise pour l'État français.
Ah oui, les énergies renouvelables devraient rapporter 8,6 milliards d'euros, dont 7,6 rien que pour l'éolien, selon les estimations de la Commission de régulation de l'énergie que rapportent les Échos. Les prix de cette électricité, d'habitude subventionnée, explose. Et au lieu de mettre au pot pour assurer des tarifs minimums aux producteurs de renouvelables, eh bien l'État va récupérer la différence.
Et si les entreprises montraient l'exemple en matière de chasse aux gaspillages, c'est en tout cas le chemin que prend la grande distribution.
Et oui, les plus grosses enseignes françaises ont annoncé hier un plan de sobriété énergétique applicable à partir du 15 octobre. Et Carrefour va plus loin. Non seulement il s'engage dans ce plan de réduction d'énergie, mais le groupe a également annoncé hier, de façon concomitante, un engagement immédiat avec RTE. Pauline Tadevin.
Action, réaction. 4 jours après l'appel du chef de l'État aux grandes entreprises à agir et alors que l'ensemble des grands distributeurs français, dont Carrefour, s'engageaient à réduire leur consommation d'énergie à partir du 15 octobre, Alexandre Bompard a pris les devants hier en signant une charte avec le gestionnaire du réseau d'électricité RTE. Il promet de réduire ou décaler la consommation d'électricité dans ses magasins en cas de forte tension sur le système électrique. Début avril, déjà à la demande de RTE, il avait baissé la lumière dans ses magasins le matin. D'ici 2030, il espère avoir réduit de 27,5% sa consommation d'énergie au niveau mondial par rapport à 2019. La meilleure solution, c'est de prendre l'initiative pour le patron de la Fédération du commerce et de la distribution qui salue le mouvement global du secteur. Il rappelle qu'il y a quelques années déjà, il s'était attaqué au double vitrage pour l'immeuble froid qui permet de réduire de 25% la facture d'énergie. Des investissements bons pour la planète, pour le réseau électrique, mais aussi pour les commerçants qui diminuent ainsi le risque de devoir répercuter sur leurs produits l'explosion du coût de cette énergie.
Et toujours dans le secteur de la sobriété et de l'énergie, les Américains estiment qu'ils sont trop dépendants des terres rares chinoises. Ils entendent bien, Claire, y mettre un terme.
Ah oui, une dépendance excessive, a déclaré Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, en arrivant en Corée du Sud hier. Face au risque que Pékin ne coupe ses approvisionnements sur certains produits clés, eh bien Washington veut renforcer ses liens avec Séoul et diversifier ses approvisionnements. Les explications d'Antoine Hollard, le correspondant de BFM Business à Washington.
Oui, c'est vraiment le combat de Janet Yellen. La secrétaire au Trésor pense qu'il faut complètement revoir la mondialisation. Elle dit que les États-Unis doivent renforcer leurs liens commerciaux avec les démocraties pour ne plus dépendre de pays autoritaires comme la Chine. Elle appelle cela faire du commerce entre pays de confiance. Alors c'est vrai que l'économie américaine est devenue très dépendante à la Chine, trop dépendante même en particulier dans des domaines stratégiques comme les terres rares ou les panneaux solaires. La crainte des Américains, c'est que Pékin utilise sa position comme un moyen de pression, comme une arme même contre les États-Unis en menaçant de couper les approvisionnements. Par ailleurs, la pandémie et les confinements en Chine ont montré que ces chaînes d'approvisionnement sont extrêmement fragile et que tout cela contribue à aggraver l'inflation. A l'inverse, faire du commerce avec des pays amis, c'est la garantie, dit-elle, de se mettre à l'abri de tous ces soubresauts. Et c'est donc cette idée que Janet Yellen est venue défendre en Asie, au Japon d'abord il y a quelques jours, puis en Corée du Sud hier. Les Américains cherchent notamment à convaincre Séoul de rejoindre une alliance pour la production de semi-conducteurs.
Et la Chine et l'Union européenne vont tenir dans l'après-midi un dialogue sur leurs relations économiques et commerciales, échange prévu en visioconférence.
Où en est la production de crédit immobilier en France ?
Eh bien, crédit logement CS1, le juge de paix en la matière, livre dans la matinée ses chiffres du deuxième trimestre. Une chose est sûre, entre la hausse des taux d'intérêt, la barrière du taux d'usure et les exigences des banques, l'accès au crédit immobilier est de plus en plus compliqué. Marie Cœur de Roy.
Les obstacles se multiplient pour décrocher un crédit immobilier. Chez les courtiers, le constat est unanime. Et ce n'est pas uniquement la remontée des taux d'intérêt qui pose problème. D'ailleurs, à 1,85% sur 20 ans selon Meilleur Taux, on reste à un niveau nettement inférieur à l'inflation. Non, les difficultés sont ailleurs. Il y a d'abord le taux de l'usure, ce taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter et qui ne remonte pas suffisamment vite. Le courtier CAFPI nous dit d'ailleurs qu'environ 20% des projets pourtant solvables sont finalement retoqués à cause du taux d'usure. Il y a également les exigences des banques en termes d'apport personnel qui sont de plus en plus fortes. Et puis les autres contraintes réglementaires, comme la limitation de l'endettement des ménages à 35%. Selon Meilleur Taux, plus de 10% des dossiers sont en zone critique et près de 30% sont même totalement infinançables. La production de crédit devrait donc, sans grande surprise, repartir durablement à la baisse.
Et on en parlera dans un instant avec Guillaume Autier, le directeur général de Meilleur Taux, qui sera mon invité. Merci beaucoup Claire, on se retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le prochain journal.